La plus grande prudence ce soir est recommandée si vous rendez sur les Pyrénées, notamment à l'Ariège où on annonce de la neige et du vent pour ce soir et demain. Soyez prudents sur les routes. Je ne sais pas s'ils sont plutôt ski ou foot, ou je pense qu'ils sont plutôt foot. Nous retrouvons tout de suite toute l'équipe de l'émission. Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. Portez-vous bien, l'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis jusqu'à 20h, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine avec le débat ce soir et le football avec le Racing Club de Strasbourg. Enfin, nous recevrons Valentin Porte en direct de l'Allemagne où il dispute le mondial de handball avec l'équipe de France. Avec nous ce soir, bonsoir Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
On va commencer avec vous.
Beau, ouais.
Il est en forme, Lucas.
Bonsoir,
Sardic.
Messieurs-là.
Je suis très en forme.
Il s'énerve contre le micro parce que le micro ne tient pas en place.
Oui, mais bon, je sais pas. Là, il veut pas. Et j'ai beau m'acharner sur lui, il veut pas rester. Il veut pas rester. Donc, je le montrerai au fur et à mesure.
Faites comme Timothée Rouvière.
Moi, j'ai un trépied, c'est
parfait. Voilà, hein. Vous avez mis un cale, c'est parfait.
Il est ingénieux, ça, Timothée.
Bah oui, mais moi, j'ai pas le matériel. J'ai pas les financements pour acheter ce genre de choses. Non. Il va falloir que je le fasse à l'ancienne.
La dépêche ne suffit pas, monsieur Serdic.
Non, ça se saurait. Hein.
Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Maxime Brossard?
J'ai travaillé. J'ai commenté notamment un magnifique Soyo Brive dimanche pour le compte du site de Brive sur Twitter. C'était plutôt sympathique. Et voilà. Et puis après samedi, j'étais au repos puisque vendredi il y a eu Blagnac Narbonne. Donc voilà. J'avais un petit jour de break, mais j'ai suivi aussi le résultat des Belugas qui ont été en difficulté à Valvanoise. Ouais.
Alors qu'ils avaient gagné la semaine dernière.
Ouais, ils avaient mis 9-1 à Clermont. Ouais.
Ils avaient
tué montagnes russes, là.
Tué Clermont. Ouais. On va parler de boxe tout à l'heure. On va spoiler un peu le coup de cœur et le coup de gueule de tout à l'heure. On va parler de boxe, mais moi j'ai une question parce qu'on en parle souvent.
Ouais.
On entend les deux rappeurs en ce moment, Booba et Kaaris, qui veulent faire un combat de boxe. C'est du sport. Je suis désolé, c'est du sport. Messieurs, si vous devez choisir, qui va gagner entre Booba et Kaaris?
Oh, bonne question.
Spécialiste de boxe, Maxime Brossard.
Ouais, je sais que Booba,
que vaut le combat déjà?
Je sais
ce
que
serait du poids lourd, du mi-lourd?
Non, mais là au niveau de la catégorie
poids, ce serait du gros
lourd,
je pense.
Ça va pas être respecté, c'est plus pour le show, ouais.
C'est
après
ridicule.
Honnêtement, je suis pas un grand fan des deux personnes, mais en fait, j'aime les sports de combat, donc par curiosité, je pense que je vais le regarder, ouais. Pour rigoler, ouais.
Lucas, pas du tout. Inintéressant.
Hein. Ouais, ça me laisse vraiment indifférent. Voilà, je sais même pas si par principe je vais m'empêcher de cliquer sur quoi que ce soit qui mentionnera ce match.
Lucas qui va avoir beaucoup la parole là sur les coups de cœur et coups de gueule parce que
oui.
Alors exceptionnellement vous avez un coup de gueule.
Oui.
Et deux coups de cœur.
Oui.
Parce que vous avez eu du mal à choisir et j'ai dit bon allez, on fait une fleur à Monsieur Serdic.
Ce serait trop dommage de ne pas parler de tout ça en fait.
Voilà. Et vous Timothée Rouvière pour le combat?
Non,
peu importe.
Comme Lucas, moi ça m'intéresse pas. On est loin de tout ça. Donc voilà, on va les laisser faire leur combat tranquille et nous on va se concentrer sur les sports qu'on aime bien.
On fera les paris. Bon j'espère que vous êtes prêts messieurs. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur. Et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, allez, vous êtes plutôt content. On va dire sur les 5 coups de cœur et coups de gueule, il y a 4 coups de cœur. On va commencer avec vous, Lucas Serdic. On va commencer avec un coup de cœur quand même.
D'accord.
On a parlé la semaine dernière avec Eric Dupri du premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie, qui se déroule à merveille, entre guillemets, pour les Français. Puisque en deuxième semaine, ce qui est un miracle, on a un Français, Lucas Pouille, qui s'est qualifié ce matin. Mais le niveau est quand même excellent pour ce premier tournoi de l'année.
Oui, non, mais c'est vrai que ce petit rayon bleu, blanc, rouge nous fait plaisir. plaisir parce que Lucas Pouille, on l'aime bien et qu'il avait toujours eu beaucoup de peine en Australie. Là, il est qualifié pour ses premiers quarts de finale en Australie après une saison en 2016 où il avait fait l'US Open et Wimbledon, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est pour le niveau global du plateau masculin que j'ai envie d'être content aujourd'hui parce que c'est du très haut tennis, du très haut niveau qu'on voit en ce moment. Là, on a eu des huitièmes de finale absolument incroyables, que des matchs très disputés, aucun joueur en dessous de son niveau. Et quand on voit les noms, on se dit oui, il y a que des matchs que j'ai envie de voir. Il y en a aucun qui m'a déçu. Et en plus de ça, il y avait des absents. Quoi. Je veux dire, ceux qui sont fait sortir avant, c'est Murray, c'est Wawrinka, c'est Dominic Thiem, c'est Kevin Anderson, c'est des gros noms du tennis mondial, c'est du top 10 ou du vainqueur en Grand Chelem ou du finaliste. Et là encore, ceux qui se font sortir, Marin Cilic, on en avait fait un outsider, Alexander Zverev, on avait fait un gros outsider.
Il a pris une fessée, Zverev, ce matin. Il a fait, pour le Canadien, futur adversaire de Pouille.
Il a pris une fessée face à Raonic qui revient de je ne sais où, même si le troisième set a été disputé. On parle même pas de la victoire de Nadal sur le revenant Berdych avec 2-7 d'un niveau mais incroyable de Nadal. On savait pas où il était. Il y a une semaine, on s'est dit même est-ce qu'il va faire quelque chose. Ouais, il est en forme, Nadal. Quand il revient, il est toujours en forme. C'est assez incroyable. On a que des gros matchs et voilà, c'est très prometteur pour cette saison tennistique qui s'annonce vraiment passionnante. Quoi.
Timothée Rouvière, est-ce qu'on va cette année avoir le sommet du... Tous les ans, on a l'impression qu'on dit la même chose. Hein. Cette année, ça va être encore plus fort que l'année précédente. Est-ce que cette année, on peut atteindre le Graal du tennis mondial ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de Graal, mais comme dit Lucas, on a des matchs de haut niveau, à haute intensité. On a des belles surprises. Moi, je crois que la plus grosse surprise, c'est l'élimination de Federer. On en a parlé la semaine dernière par le grec Tsitsipras. L'année
4-7
dernière,
énorme, hein, voilà, 4-7 3 tie-break et un 7-5. C'est
vrai qu'on avait
monstrueux.
Été un peu déçus l'année dernière des conditions de jeu à l'Open d'Australie. Oui. Là, y a pas, les joueurs ne souffrent pas de la chaleur, donc c'est positif et c'est beau à voir. Chez les filles aussi, il y a de belles surprises, donc pourvu que ça continue. Hein.
Ouais, moi, pour le Graal cette saison, je suis complètement d'accord parce qu'on n'aura peut-être jamais trois générations de tennisman comme ça à ce niveau. On a l'ancienne génération avec les Federer, voilà, on sait que ça y vit ces dernières saisons. Murray va être à la retraite, Nadal, voilà, il est forcément sur la fin. On a la génération des Dimitrov, Nishikori qui est encore là, Raonic qui est en forme, et on a les nouveaux, les jeunes, là, les moins de 23 ans,
les Zverev, les Pouille,
Tiafoe qui nous fait un tournoi magnifique là, plus ceux qui ont été éliminés avant, Demi-Nord, Zverev qui vient de se faire sortir, enfin c'est fou le plateau qu'on a, c'est fou.
Est-ce que le fait que justement les retraités, on va dire que les légendes commencent à penser à la retraite, Andy Murray malheureusement lui c'est par choix, c'est médical, Federer, on se doute bien que Federer, c'est soit cette année, soit l'année prochaine. Est-ce que ça apporte pas un peu plus d'adrénaline à tout ça ?
Ah mais si, bien sûr, ça apporte encore plus d'intérêt. On se dit à chaque fois qu'un joueur comme Federer joue un match dans un grand chelem que c'est peut-être son dernier dans ce grand chelem-là. En tout cas, là on sait qu'il va faire Roland Garros. Est-ce que c'est pas, est-ce que voilà, Roland Garros qu'il avait quand même snobé de ces deux dernières années, est-ce que c'est pas pour dire au revoir d'une certaine façon à la terre battue parisienne? On ne sait pas. Moi je vois mal Federer s'arrêter là-dessus en Australie, puisque quand même il l'a gagné 6 fois, c'est un tournoi qu'il adore. Je me dis qu'on le reverra l'année prochaine, mais ça se trouve c'était la dernière apparition de Federer en Australie, on ne sait pas, donc ça rajoute évidemment quelque chose. Oui.
On le reverra bien et on passe un bonjour à Marek Keta, notre chroniqueur qui est en Australie et qui était ce matin sur les cours de tennis.
Il était
hier également. Donc,
il a vu Pouille battre Koric.
Voilà, exactement. Ouais. Il était au double de Mahut Herbert juste après. Donc voilà, on le salue, lui qui est en Australie. Maxime Brossard. Ouais. On n'en a pas parlé, mais vous avez inversé tous vos coups de cœur et vos coups de gueule.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là.
C'est vrai.
Parce que voilà.
Sans se concerter.
D'habitude, Maxime Brossard, c'est la boxe.
Ou le rugby.
C'est Timothée Rouvière. D'habitude, Timothée Rouvière, c'est un peu plus le rugby. Là, c'est Lucas Cerdic. Et d'habitude, Lucas Cerdic, c'est le ski.
Ouais.
Et le ski, c'est vous, Maxime Brossard.
Ouais, c'est. Allez-y, lancez-moi.
Vous n'êtes pas passionné de ski, mais vous êtes bien tombé ce week-end avec Clément Noël.
Ben oui, c'est ça. En fait, comme je vous disais, avant de regarder le match de Soyou Angoulême, Brive, j'étais sur Eurosport quoi, et du coup par hasard je suis tombé sur la descente sur le slalom et donc c'est vraiment avec étonnement déjà que je me suis pris au jeu à suivre cette discipline, et surtout j'ai assisté donc à la première victoire en carrière de de Clément Noël, donc.
On en avait parlé la semaine dernière avec lui.
C'était son premier podium.
Voilà, et là, maintenant, il est sur la plus haute marche. Alors, surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que pour suivre un peu le ski, on va dire de loin, j'ai vu qu'il avait donc fait un très bon deuxième tour, un très bon premier tour. Il devait commencer donc en dernière position, puisqu'il avait fini premier auparavant. Et avant lui, donc, il y avait des cadors comme Hirscher ou Christoffersen. Voilà, et donc, c'est ça qui a été d'autant plus difficile, c'est qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait Grange qui s'était blessé. Mmh. Et après, j'ai vu Peinture redescendre et il s'est un peu loupé. Il a fini 9e, je crois.
Non,
25e carrément. Mmh. Ouais, et donc, du coup, je me suis dit, ouais, il doit avoir une pression énorme. Surtout que je crois qu'il a que 21 ans.
Il a 21 ans, ouais. Tout à fait.
C'est fou.
97.
Et ce qui était surtout assez impressionnant, c'était le suspense qu'il y avait dans cette course, en fait, avec donc Hirscher. Ensuite, Hirscher a été battu par son compatriote Feller. Et ensuite, donc, c'était au tour de Clément Noël, qui a fait une descente, je pense, on va dire.
Prudente,
ouais, voilà,
maîtrisée.
C'est ça. Maîtrisée, mmh. Mais parce que finalement, là où d'autres sont passés, ils étaient peut-être plus en puissance, j'ai eu l'impression, plus vraiment dans l'agressivité d'attaquer les piquets dans ce slalom, quoi.
C'est exactement
et
ça.
Et donc, du coup, je l'ai vu arriver à la fin et lever les bras, et même moi, je me suis pris au jeu de vraiment lever les bras. Je me suis dit, waouh, incroyable, et donc, c'est vraiment une bonne première expérience de ski pour moi avec cette victoire à Wengen.
Timothée Rouvière.
Oui, comme on l'avait dit la semaine dernière, Clément Noël, c'est vraiment l'espoir du ski alpin français. Marcel Hirscher l'a même dit, il est très
Il assume les espoirs qu'on passe en lui.
Il confirme les espoirs passés en lui. Le maître Marcel Hirscher a dit qu'il était très fort techniquement et qu'il était l'avenir du ski alpin mondial. Comme on l'a dit la semaine dernière, là, il y a eu une deuxième place. Là, il y a une première victoire à 21 ans. Il a fait 4e des Jeux Olympiques. Il y a les Mondiaux qui arrivent à Arré en Suède. Donc, il se positionne et on peut aisément rêver d'un podium pour Clément Noël.
Il est monté en puissance, il a fait 2-3 erreurs sur quelques slalom en Coupe du Monde, mais là, sinon il a fait 7e, 4e, 2e, 1er. Il est dans une espèce de série magnifique. Et là où ce qui est impressionnant, c'est que souvent on brille en second run, nous. C'est-à-dire qu'on a en réaction, les Français. On fait des super second run. Lui, il a fait un super premier run et il a maîtrisé la pression qu'il devait avoir sur les épaules à 21 ans de s'élancer en dernier.
J'ai vu qu'il y avait eu 3 heures d'attente avant de se lancer.
C'est vraiment très fort ce qu'il a fait. Et battre Hirscher aujourd'hui en slalom, c'est un exploit. C'est quelque chose qui arrive très, très, très peu souvent. Enfin, on ne mesure pas assez à quel point ce petit jeune-là, il va vraiment faire du bien au ski alpin tricolore.
Vous êtes tous heureux, mais il y en a un aujourd'hui, malgré les joies de Clément Noël. Vous n'êtes pas content, Lucas Sardic. C'est un de vos coups de gueule sur le stade toulousain. Victorieux hier, 27 pour le dernier match de groupe de la Champions Cup contre les Basse, direction les quarts de finale. Ce sera pour la région parisienne et le Racing 92 pour un duel 100% français. Mais c'est un coup de gueule, pourquoi ?
Déjà, ça me gonfle, moi, les duels 100% français, voilà. Et en plus de ça, ce qui m'énerve encore plus, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès. Voilà, d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, qui ont parlé d'une deuxième mi-temps balancée un petit peu par les Toulousains. Je suis vraiment pas loin de partager leur avis. Ils menaient 17-3.
Vous pouvez expliquer pourquoi ils ont lâché, entre guillemets, le match ?
Parce qu'à un moment donné, ils menaient 17-3, 2 essais à 0, et s'ils marquaient 2 essais de plus, ils remportaient un point de bonus offensif qui les aurait fait jouer le Leinster en quart de finale, l'épouvantail un peu de la compétition, même si la poule des Toulousains. Ils ont perdu au Leinster d'ailleurs la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises. Voilà, et ils avaient gagné par contre à domicile au match aller. Le problème, c'est que voilà, en refusant de jouer, du coup, à mon sens, cette deuxième mi-temps, et franchement, je trouve que c'était assez flagrant, même si Didier Lacroix, à la fin du match, le président toulousain a dit qu'il n'avait pas cherché à gérer. On a vraiment le droit de le penser. Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour les supporters qui sont venus. Et puis, on joue la Coupe d'Europe pour jouer le Leinster en quart de finale. On joue pas la Coupe d'Europe ou en finale ou en demi-finale. Mais je veux dire, pour jouer, s'ils sortent contre le Racing 92, qui est franchement possible, hein, parce que Racing 92 en Coupe d'Europe cette saison, c'est très très fort.
C'est vice-champion d'Europe.
Ce sera dommage. On se sera privé de voilà, on joue pas une Coupe d'Europe pour jouer contre des clubs français. On a envie de jouer le Leinster. On a envie que cette équipe continue à nous donner du plaisir, ce qui voilà, c'est ils se coupent un peu les jambes, et ça, je trouve ça pas dans leur esprit, pas dans ce qu'ils nous montrent depuis 2-3 mois.
Ils ont pourtant joué avec les règles. Est-ce que justement cette organisation, parce qu'on va expliquer, vous l'avez dit, le Leinster et Toulouse sont dans la même poule. Or, si Toulouse avait gagné plus largement, ils se seraient retrouvés tout de suite après le match de poule. Est-ce que l'organisation, est-ce que c'est pas l'organisation qui fait défaut? Comment c'est possible? Comment
c'est possible,
que deux clubs de la même poule se retrouvent en quart de finale, par exemple, sur d'autres sport, c'est pas mais possible, c'est un tableau opposé.
Parce que au rugby, on a tellement peu de clubs au très haut niveau européen qu'on peut pas faire des coupes d'Europe à plus de 20 équipes. Donc on met 20 équipes et on espère de trouver un système un peu bizarre.
C'est obligé, on est obligé de faire comme ça, puisque comme on en parlait un peu avant, c'est au foot, vous pouvez le faire parce que finalement l'intégrité physique des joueurs n'est pas mise en danger directement, mais au rugby, excusez-moi, vous faites Leinster, Timisoara ou une pauvre équipe de Chypre ou de je sais pas où, c'est une boucherie. Alors déjà qu'il y a pas mal de morts, là il faut, enfin je veux dire, il y aurait trop d'écart. Ouais. Donc on est obligé de faire comme ça. Après oui, d'un côté je suis d'accord avec Lucas, et surtout moi si j'avais payé ma place, je serais vraiment fou, je me serais arraché les cheveux. Mais bon, de l'autre côté, le Stade Toulousain, il la joue tactique. Alors après, maintenant qu'ils ont joué tactique, finalement, je pense que pour eux, ils ont plus la pression que s'ils jouaient Leinster, parce que là, s'ils perdent, excusez-moi l'expression, ils vont passer pour des cons. Hein, donc on verra. Mais...
Timothée Rouvière.
Oui, ça va être, comme disait Maxime, ça va être compliqué contre le Racing. C'est vrai que c'est dommage pour les spectateurs qui payent leur place. Ça casse aussi une... Alors, ça casse pas une dynamique parce que, oui, le stade a gagné, mais...
Les spectateurs, quand ils vont au stade, ils peuvent s'en douter. On prend le match de la Coupe du Monde cet été. Les gens payent leur place pour le troisième match de groupe de l'équipe de France de football.
Techniquement,
il y a eu 0-0, c'était nul. On va dire c'était nul.
On en a parlé, on en a parlé ici même la semaine dernière. Avant que les matchs ne se jouent le week-end, Toulouse n'était pas sûr à 100% d'être qualifié. Il fallait quand même qu'ils gagnent. Après, les résultats des différents autres matchs ont fait que juste avant le match, ils savaient qu'ils étaient qualifiés. Mais bon, les gens, ils prennent leur place avant, ils les prennent rarement sur place là comme ça. Et ils étaient venus. Supporter le Stade Toulousain dans l'optique d'une qualification dans un match décisif, et ils se retrouvent avec un pauvre match un peu balancé.
Ils ont gagné.
Ils ont joué à 50%.
C'est pas dans l'esprit.
On avait eu un débat courant septembre aussi. C'était sur les titres. On avait parlé, je crois, avec Nolan Bediaf. C'était sur Marseille où quelqu'un disait voilà, il vaut mieux être en finale de l'Europa League que gagner la Coupe de la Ligue. On n'était pas d'accord. Est-ce que c'est pas ce cas? Est-ce que le Stade Toulousain n'a pas pensé comme des compétiteurs, malgré ça, justement, de se dire ouais, enfin, le Leinster, on a vu, on connaît. Ouais. Si on veut aller plus loin et si on veut la Ligue des gagner la Champions Cup, pardon, il faut aller plus loin.
C'est possible. C'est tactique, mais dans tous les cas, ils vont, au bout d'un moment, ils seront obligés de le croiser, le Leinster.
Bah, c'est ça. C'est quoi l'ambition? C'est de gagner la Coupe d'Europe. Il va falloir qu'ils battent le Leinster à un moment donné, en quart, en demi, en finale, on s'en fout.
Ils échapperont pas.
Voilà.
Bon, on verra bien. En espérant que le Racing ne barre pas la route au Stade Toulousain, ce sera courant avril, hein, le quart de finale. On va partir en boxe avec vous, Timothée Rouvière, et le titre de champion du monde de Nordine Oubali.
Oui, Nordine Oubali qui est français, un jeune lançois de 32 ans.
Ouais, ça va, il est jeune. Dans le sport, non, mais il est jeune.
Pour la boxe aussi, ça va.
Oui, pour la boxe, c'est jeune. Quand on regarde Manny Pacquiao qui a 40 ans et quelques et qui concourait aussi à Las Vegas. Donc voilà, c'était à Las Vegas, donc la capitale de la boxe, donc dans un cadre assez mythique. Et Nordine Oubali qui affrontait l'américain Raishi Warren et qui a gagné tout simplement, qui est champion du monde WBC des poids coqs. Donc Nordine Oubali, c'est aussi une petite revanche sur la vie parce qu'il avait eu des échecs olympiques.
Et poids coqs, juste pour préciser aux auditeurs, c'est 52-56 kilos, donc c'est tout petit. Moi je peux pas par contre.
Poids plume pour Nordine Oubali, donc qui est resté sur plusieurs échecs olympiques, notamment à Pékin, une défaite en 8e de finale, à Londres et une défaite en quart de finale. C'est un garçon qui a toujours vécu dans l'ombre de Tony Yoka, qui est la superstar française, et Souleymane Sissoko. Et voilà, il a débarqué à Las Vegas un petit peu avec ses 52 kilos et quelques. Il débarque dans l'arène avec un peignoir rouge, une étoile verte du Maroc sur le dos, en référence au pays de son père. Et il arrive et comme le disait son adversaire, c'est un petit jeune qu'en voulait plus, qui a frappé plus fort, qui a été fort mentalement, qui a encaissé les coups et qui a surtout bien placé. Donc ça fait plaisir de voir, parce que ça faisait depuis 2012 et à Sanendam que la France n'avait pas été championne
d'un titre majeur. Ça fait plaisir de voir encore un Français briller.
Il y avait
Arsène Goulamirian, il y a donc à Sanendam, et puis bon, je veux encore citer des noms: Boderlic, Soro, Yoka qui est en suspension et qui va peut-être bientôt revenir, Mbili. Bon, la boxe française est vraiment
se porte
très très bien, et ouais, là c'est vraiment comme on dit souvent, voilà, comme je le répète, la boxe et les plus belles histoires. Mais là, on a encore un exemple avec Oubali. D'ailleurs, à la fin de son combat, il a dit une phrase qui est très vraie, qui, je pense, en plus, est complètement dans l'air du temps. C'est « la victoire aime l'effort ». Et je pense qu'il a totalement résumé, quoi. Quand on se donne les moyens, quand on se surpasse, même si c'est compliqué, ben, on arrive toujours à ses fins. Et il a fait 5 bons premiers rounds et après, il a baissé un peu le pas parce que... Il a fait 5 premières rounds un peu compliquées parce que son adversaire l'a un peu malmené. Mais après, ensuite, il a déroulé.
Oui, ça fait plaisir à voir pour Nourdine Oubali. Moi, ce que j'aime bien dans cette boxe française, c'est une boxe qui a des valeurs. C'est un garçon qui vient d'une famille assez... une grande famille d'une dizaine d'enfants. C'est un garçon, simplement, par la force du travail, par la persévérance, qui fait pas, qui a pas de fioritures, c'est pas bling-bling.
Pas du tout.
Et la victoire n'est que plus belle.
Son père était mineur dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une belle histoire.
On est content pour le français, pour Nourdine Oubali. Une belle récompense pour ce joueur de 32 ans. On se retrouve, nous, dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On me disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard.
C'était Big Flo et Oli sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. Bonjour.
Et bonjour Jean.
On va parler de la détox aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce que c'est?
Eh ben alors, on avait parlé des fêtes, et puis après des bonnes résolutions. Ben maintenant, on peut aussi donc passer à l'étape de nettoyage, on va dire. Alors, ça s'appelle aussi détoxination. L'idée, c'était, comme on a des toxines, entre guillemets, on va dire, qui pourraient encrasser un petit peu le foie ou des articulations, par exemple. L'idée, c'est de nettoyer. Et rien de mieux que, on va dire, le vert pour ça, c'est-à-dire la chlorophylle et tout ce qui est contenu dans les légumes et les fruits. Donc moi, j'encourage là vraiment à essayer d'acheter déjà
des produits verts.
Des produits verts. Donc ça veut dire diverses salades, des choux, les épinards et de focaliser un petit peu son attention sur, c'est très bête, mais par exemple la soupe, c'est de faire vraiment des soupes, diverses soupes. Et d'en faire beaucoup et de ne pas hésiter à faire en sorte que la soupe soit très très verte. Donc quand on met des épinards, ça va être vert. On peut faire des soupes avec les fans des carottes aussi, ça marche bien.
D'accord.
Des poireaux. Et tout ça contribue déjà à beaucoup plus hydrater l'organisme, qui peut-être était moins bien hydraté pendant les fêtes, parce que parfois, ce n'est pas forcément l'eau qu'on boit
oui.
majoritairement.
Oui, c'est vrai.
Et donc, des soupes où vous allez mélanger tout un tas de légumes verts, enfin, tout ce qu'on peut trouver de saison, hein, et en faisant simplement de la soupe. Et aussi, en faisant aussi des jus de fruits. Mais ce que j'encourage à faire, c'est de faire des jus de fruits et en mélangeant aussi avec des légumes. Par exemple, des betteraves, un peu de raisin, et carottes
faire
et courgettes.
Un mix des deux.
Voilà, un mix des deux ou des quatre. Mmh. En mettant des agrumes aussi, puisque ce sont des fruits normalement de saison. Orange, clémentine. Et voilà, de ne pas hésiter finalement à essayer de parfois prendre qu'une soupe et se dire
et
je mange que ça.
Ça suffit.
Voilà, et ça suffit. Et
je vais faire
ça.
Je vais essayer ce soir. Ah. Ce soir, je mangerai de la soupe.
Promis, je m'envoyais une photo alors.
Pas de souci.
Et ensuite, oui, c'est-à-dire que tout ce qui était peut-être surconsommé, on va le mettre de côté, c'est-à-dire pas surconsommer de protéines. Pas énormément de viande.
Les protéines qu'on a mangées durant les fêtes.
Ouais, hein. Ou le fromage, s'il y en avait trop, on va mettre un petit peu de côté. Faire des choses voilà, plus simples, peut-être un yaourt, une soupe.
Et il faut faire des jeûnes aussi.
Oui, le jeûne, ça peut être intéressant. Alors moi, je préconise des jeûnes très courts. Mmh. Il y en a qui préconisent des jeûnes plus longs. Moi, bon, je ne suis pas trop favorable à ça. Mais un jeûne de 16 heures, par exemple, c'est intéressant. Ça voudrait dire que le jeûne pourrait commencer à 16h jusqu'à 8h du matin, par exemple. Ou bien démarrer le jeûne à 20h jusqu'à midi. C'est-à-dire après le repas du soir, après la bonne soupe, à partir de 20h, rester à jeûne jusqu'au...
Ne pas déjeuner,
ne pas prendre le petit déjeuner.
Et déjeuner
voilà,
le midi.
Excepté, bien sûr, l'eau que l'on boirait. Ou alors, donc, démarrer le jeûne à 16h. Donc après un repas de midi ou une heure.
Pas prendre le soir et par contre prendre le petit déjeuner le matin.
Et après jusqu'au petit déjeuner. Voilà.
D'accord.
Et dans la détox,
pas de soucis, allez-y.
Dans la détox aussi, ce qui est favorable, c'est vraiment de faire beaucoup d'infusions. Des infusions où il y aura du romarin, du thym, du romarin, des infusions où de ne pas hésiter à faire vraiment une hyperhydratation.
Et pour terminer cette chronique sur la détox, vous avez une recette pour nous donner des idées éventuellement pour ce soir, si les auditeurs veulent le faire.
Pourquoi pas. Par exemple, il y a un jus de légumes verts
facile
à faire. Voilà, il faut prendre deux feuilles de chou frisé, deux feuilles de blette, c'est facile, c'est deux chaque fois, deux feuilles de chou vert, une petite poignée d'épinards, et puis un quart de concombre. Voilà, vous mixez tout ça. Et puis... Bon, le jus est très vert.
Là, c'est vert. C'est ce que vous nous conseillez,
mais
justement.
En tout cas, c'est ce qu'on peut faire. Alors après, on peut en faire un autre, par exemple, avec des betteraves, de la pomme et du céleri, et puis une petite poignée de menthe fraîche. Tout ça, vraiment, on peut le faire à l'extracteur de jus, si on en a un, ou à la centrifugeuse, bon, ou alors au blender, mais... Bon, la centrifugeuse, c'est pas mal aussi.
On essayera ce soir.
Ce soir, on essaye. Après.
On essayera. Merci Didier Rubio.
Avec plaisir, à bientôt.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic.
Non, mais voilà, je suis pas sûr de le faire. Je me mets en grève.
J'ai encore fait une faute.
Sur le conducteur.
Sur le conducteur, on va expliquer aux auditeurs.
Je découvre avec effroi que je m'appelle encore Lucas Serdic. Non, mais ça suffit, quoi.
C'est une faute de frappe. C'est l'ordi, c'est pas moi.
Je vais prévenir vos parents, monsieur Sureda. Ça suffit.
C'est terminé. C'est pas moi. Bon, comme d'habitude, on commence avec le rugby.
Le rugby a une très belle affiche, d'ailleurs. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes de pronostic. L'affiche de ce week-end, elle va concerner Castres et Clermont. Castres et Clermont, c'est l'affiche de samedi à 15h. Voilà, les Castrais qui se sont repris. C'est le retour du top 14.
14, hein, pardon, oui. J'ai pas précisé, mais après voilà, les deux journées de Champions Cup qui étaient particulièrement sympathiques à suivre. Le retour du top 14, c'est la 15e journée, et donc samedi 15h, Castres le 8e contre Clermont le leader. Une belle affiche, messieurs. Vous voyez quoi, Castres, ils ont renoué avec la victoire ce week-end face à Gloucester, 24-22, un match qui pourrait bien les lancer pour cette deuxième partie de saison, non Maxime?
Je vais dire victoire de Castres.
De Castres?
Ouais, allez. Oh là là là. Victoire, bah, ouais, allez.
Vous y allez fort, là.
Allez, j'y vais.
Y
allez, fort, d'entrée, hein. Allez, notez victoire de Castres. 20 à 16. Comme ça, ils auront un bonus défensif, les Clermontois.
Castres, Clermont. Ah, 20 à 16. Okay. Ouais,
Timothée Rouvière. Okay.
Moi, je vois plutôt un duel de buteurs pour ce match.
9-6.
Et je dirais victoire de Clermont, une petite victoire, allez, 12-9.
Moi, je pense.
Il n'y aura pas d'essai, moi, je pense. Hein.
9-12.
De grosses défenses.
Moi, je vais y aller fort. Je pense qu'il n'y aura pas débat sur le match. Ah, je pose un 36-10.
Ah ouais, costaud quand même. 36-10
pour Clermont.
Ouais, bien évidemment.
Non, Pierre Fabre, non, je vois pas autant. Moi, je dirais que ça fera du 15-21, quoi. Ah. 15-21.
Pour Clermont.
Donc pour Clermont.
Bon, on verra bien. Okay. Le perdant payera l'apéro avec modération, bien évidemment.
Jamais.
Toujours. Toujours avec modération. La suite du top 14, le Stade Toulousain.
Oui. Donc le Stade Toulousain, lui, qui va accueillir Grenoble, hein, c'est un peu moins glamour que la Coupe d'Europe, mais quand même, hein, c'est un match qu'il faudra jouer dimanche à 12h30 pour le Stade Toulousain, deuxième du championnat. On a aussi deux autres affiches qui nous intéressent. Ce sera samedi à 18h, Bordeaux-Bègles qui accueille Agen et Perpignan qui accueille la section paloise, qui s'embellit, qui va mieux, qui a gagné en challenge contre le Ospreys.
Hein. Exactement, deux victoires d'affilée. On va le dire, Coraline, pendant la musique, notre réalisatrice, qui n'est malheureusement pas là ce soir, nous envoie un message. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la section paloise? On l'a fait, Coraline. Mais c'est fait. On a parlé de la section paloise.
Deux victoires en plus de la section.
Deux victoires de suite.
Deux victoires de suite. Voilà, ils vont à Perpignan qui est dernier et qui n'a pas gagné un seul match de la saison. Donc ça pourrait faire trois victoires de suite, mais avec Pau, hein.
On ne sait jamais
sûr de rien. Méfions-nous, messieurs. En Pro D2, on va continuer à jouer aussi. Ce sera la 19e journée avec deux matchs qui nous intéressent vendredi soir à 20h. Colomiers se déplace à Aurillac. Colomiers qui va un tout petit peu mieux. Ils ont gagné contre Mont-de-Marsan, c'est une belle perf quand même ce week-end, 22-16, mais ils sont toujours 15e, les Columérins.
C'est un tournant, ça.
Ça peut être un tournant, en tout cas, oui. En tout cas, un retour de victoire à domicile comme ça.
J'ai croisé le président Carré tout à l'heure, à Colomiers, et ils l'ont coché ce match, je peux vous le dire. Il m'a dit qu'il le considère vraiment comme un tournant. Donc
Oui, en même temps, Aurillac est 13e, c'est une équipe qui lutte pour le maintien comme eux. Donc voilà, effectivement, ça peut être un match intéressant à suivre. Dans le même temps, il y aura Carcassonne qui accueillera Montauban. Voilà, deux équipes voisines, le 8e contre le 12e. Ça va être un match aussi très important, à mon avis, à suivre. Et on va parler un tout petit peu de Fédéral 1, vous l'avez dit tout à l'heure, Maxime. Blagnac qui a gagné ce week-end contre Narbonne 19-3. Oui. Une belle victoire, hein, parce que Narbonne était dans le top 5. On jouera la 15e journée dimanche à 15h. Blagnac se déplace sur la pelouse de Céret.
Bon,
on pourra pas le suivre, mais attention, Blagnac est toujours deuxième de la poule 3 en fédéral 1.
On change de sport, on va parler football et le TFC qui joue demain.
Oui, il y a deux rendez-vous cette semaine pour le TFC. Il y a les 16e de finale de Coupe de France, comme vous l'avez dit, Jean, qui démarre demain. Pour le TFC, le match se sera donc à 18h30 au Stadium face à Reims. Un duel entre clubs de Ligue 1. Le TFC qui reste sur une victoire poussive mais importante, hein, sur la pelouse de Nîmes ce week-end, 1-0. Le TFC qui continue à marcher pas trop mal là, depuis la fin de l'année dernière. On va voir si ça continue en Coupe de France. Et dimanche, ils joueront pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 à 17h. Ils recevront le SCO d'Angers, qui est un club qui végète dans les mêmes eaux. Hein, le TFC 13e, l'Angers 15e.
C'est le bon moment quand même pour le Stade Toulousain. Pour le Toulouse Football Club de s'imposer à domicile. Ils l'ont plus fait en championnat depuis le mois d'août, ça fait long, ils ont battu Nice en 32e de finale, mais c'est de la Coupe de France. Donc voilà, et demain c'est un match à 18h30.
C'est vrai qu'il marche bien à l'extérieur, mais pas bien à domicile. Ce serait effectivement pas mal.
Et c'est un match demain à 18h30, à mardi, en pleine semaine. Il va pas falloir pleurer quand on verra qu'il n'y a personne au stade.
Un tout petit mot de national, parce qu'il n'y a pas de match ce week-end, mais Rodez a gagné contre l'Entente Saint-Nois à Gracia et est 3e de national, et Pau a gagné aussi contre Avranches et 10e, voilà, nos deux clubs en national qui marchent bien. Voilà. Un petit mot de...
Handball, volley.
Bah le handball très très rapidement pour dire que voilà, on a un invité prestigieux tout à l'heure. Il y a toujours pas de match pour les clubs de notre région. Il y a le mondial qui continue et qui s'achève la semaine prochaine. Donc du coup, on va passer au volley parce que là aussi, il y a deux rendez-vous pour les volleyeurs toulousains. En Coupe de France, ce sera un quart de finale et c'est mercredi à 20h à Tours. Toulouse se déplace à Tours. Toulouse qui a perdu sur le parquet de Montpellier le week-end dernier. Et en Ligue A, donc le championnat, on jouera la 15e journée et là ce coup-ci, ce sera à domicile samedi à 19h, Toulouse contre Rennes, le deuxième du championnat, donc un match qui s'annonce un petit peu difficile.
Et un mot de basket ?
Un mot de basket très rapidement. Pau qui est deuxième accueille Strasbourg en championnat samedi à 18h30. Et un mini mot de hockey sur glace. Parce que,
ouais,
voilà.
Ouais, le TBHC qui reçoit Rouen. On a le dernier match de la saison de régulière à domicile. Il y aura les playoffs après.
Voilà, les Belugas qui marchent un peu moins fort. Hein. Ils ont perdu contre Courchevel 6-3 le week-end dernier alors qu'ils avaient écrasé Clermont la semaine d'avant. Ouais. Ils sont cinquième et justement Rouen est le sixième. Donc il faut assurer voilà, la place dans le top 5. Et puis on sera bien quoi, après voilà, pour les Belugas.
Merci Lucas Serdi, qu'on passe tout de suite au débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
En 5e division en 2012, après la liquidation judiciaire du club, le RC Strasbourg a mis 10 ans pour remonter en Ligue 1. Un jeu séduisant, une 5e place et une demi-finale de Coupe de la Ligue à venir. Les Alsaciens semblent être bien partis pour être la surprise de ce championnat 2018-2019. Messieurs, vous avez l'habitude, on répond que par oui ou par non et ensuite on débat. Est-ce que tout simplement le Racing Club Strasbourg-Alsace va-t-il finir européen ? Lucas Serdic.
Ah, si le PSG n'était pas sorti de la Coupe de la Ligue, je vous dirais oui, mais là, non, ça me paraît compliqué. Il faut être dans les 5 premiers quand même pour être européen là, cette année.
Il y a la Coupe de la Ligue aussi, ils sont en demi-finale. On en parlera tout à l'heure. Maxime Brossard.
Moi, je vais dire oui.
Et Timothée Rouvière.
Moi, je dis non.
Alors, je me tourne vers Lucas Serdic. Lucas Serdic, vous dites non, pourtant, il y a la Coupe de la Ligue où ils sont en demi-finale avec des équipes. Il reste Bordeaux, Guingamp, Monaco. En championnat, c'est toutes des équipes en dessous de Strasbourg.
Oui, mais bon, Bordeaux, c'est l'expérience de ce genre de coupe nationale qu'ils ont gagné maintes et maintes fois. Monaco va peut-être essayer de sauver sa saison. Hein, c'est leur seule chance de faire quelque chose cette saison. Et Guingamp, c'est une équipe qui adore la Coupe de la Ligue. Hein, à part Paris, c'est eux qui ont gagné les deux dernières. Enfin, voilà, Paris a gagné toutes les dernières Coupes de la Ligue, ouais. Sauf Guingamp qui en a gagné deux.
C'était la Coupe de France.
C'était
la Coupe de France.
Ah bon ?
Guingamp n'a jamais gagné la Coupe de la Ligue.
Rennes.
C'était
Coupe les de deux France. Fois, c'était
2009-2014 oui. Contre Rennes, deux fois. Rennes,
ah oui, pardon, non, vous avez raison, la Coupe de la Ligue. Paris l'a gagné. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils aiment quand même les coupes. vous n'allez pas me l'enlever. Enfin.
On est d'accord.
Ils adorent les coupes. Et donc, voilà, c'est pas dit que Strasbourg la gagne. Et s'il la gagne pas, ça veut dire qu'il doit finir dans les 5 premiers. Ça me paraît un peu trop gros. Il marche sur l'eau en ce moment, mais pas assez pour être européen. Non
Maxime Brossard, vous avez dit oui, Strasbourg peut tenir la cadence en championnat, du moins.
En championnat, j'ai l'impression. Après, de toute façon, s'ils sont éliminés de la Coupe, je pense qu'ils se concentreront uniquement sur cet objectif-là. Après, honnêtement, voilà, c'est sûr qu'ils n'ont pas un effectif qui fait rêver, mais je pense qu'il y a quand même une bonne petite profondeur de banc. Puis surtout, ils ont un coach qui est vraiment le genre de type qui peut vous amener à la guerre, quoi. Donc, s'il y a quelques matchs couperés, je pense qu'il peut trouver les mots pour transcender son équipe.
Ça peut, oui.
Après, c'est sûr que, voilà, je rejoins Lucas est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée ? Bon, voilà. Je suis moins sûr, mais j'ai espoir parce, surtout pour le public de Strasbourg, pour ce club, que j'ai une petite affection pour Strasbourg.
Ah, mais nous on l'aime bien aussi, hein, mais le coach, tu en parles très bien, mais quand ça va pas, il est aussi celui qui peut tirer vers le bas, parce qu'il est pas, il aime pas la critique, il s'en prend d'ailleurs souvent aux journalistes en conférence de presse. C'est pas un tendre, Thierry Loret.
Timothée Rouvière, vous avez dit non, pourtant ce serait une simple récompense pour Strasbourg finalement, d'où avec le où était Strasbourg il y a 10 ans.
Ah oui, ça serait une juste récompense, ça c'est sûr. Strasbourg était en 5e division en 2012, on l'a dit. Moi je rejoins aussi Lucas et Maxime. Pour moi, l'effectif est de qualité. On pense notamment à Kelly Lala, à Lionel Carroll, à Samuel Grandsir qui était à Monaco et qui a rejoint Strasbourg en prêt. Mais ça risque d'être un petit peu juste pour tenir toute la saison. Bon, on sait que Paris est là-haut et après il y a quand même l'AS Saint-Etienne, il y a Marseille qui peut revenir, il y a Lyon, il y a Lille, il y a Montpellier. Donc ça risque d'être compliqué. Peut-être que la Coupe de la Ligue peut leur apporter cette qualification européenne, mais en championnat je ne les vois pas en tout cas tenir la distance sur la saison.
C'est quand même un calendrier de titan. Il reste sur 6 victoires d'affilée toutes compétitions confondues, dont 5 à l'extérieur. Ils jouent 5 fois de suite à l'extérieur, parce que mercredi en Coupe de France ils vont sur la pelouse du Parc des Princes. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Coupe de France, parce que normalement, à moins d'un deuxième tremblement de terre, Strasbourg va se faire éliminer contre le Paris Saint-Germain au Parc. 6 victoires d'affilée, 5 matchs à l'extérieur. C'est un calendrier de titan qu'attendent les Strasbourgeois, c'est le piège.
Ouais, puis il faut mettre aussi un petit peu en perspective les 6 victoires d'affilée. Par exemple, rien que la victoire à Monaco là, pour moi, il y a quand même plusieurs tournants du match qui fait qu'ils auraient peut-être pas pu gagner. Ça tourne vraiment en faveur pénalty, d'eux. Face au TFC aussi, hein, ça a tourné un petit peu à leur faveur parce que le TFC est loin d'avoir fait un match dégueulasse. Strasbourg est très fort offensivement en ce moment. Ils marchent un petit peu sur l'eau. Ils ont la réussite de leur côté, mais c'est pas non plus 6 victoires d'affilée indiscutables.
Bah, justement, moi je pense que c'est un des éléments qui peut jouer en leur faveur, c'est qu'ils ont de la chance, quoi. Ils ont de la choune. Donc finalement, est-ce que c'est pas leur saison? Est-ce que c'est pas le moment ou jamais pour l'équipe de Loré pour aller accrocher cette place européenne? Parce ils ont un effectif de Ligue 1, mais moi je trouve que l'effectif n'est pas non plus incroyable. Et justement, c'est justement ce petit brin de chance qui peut-être faire la différence à un certain moment.
Il y a une autre question à se poser: est-ce que c'est souhaitable qu'ils soient en Europe? Je suis pas sûr non plus, parce que Kenny Lala, il va pas faire une autre saison de plus à Strasbourg. Non. Ludovic Ajorc, s'il continue à marquer là comme ça, pareil. Jonas Martin, Adrien Thomasson, ça c'est des joueurs qui vont être courtisés par des clubs comme Marseille, comme Lyon, même peut-être comme Monaco. D'ailleurs, on en parle déjà de Kenny Lala à Monaco.
Maxime Brossard.
J'ai peur que sur ça, oui, je suis d'accord avec toi, j'ai peur que ce soit un peu la double lame, un peu comme ce qu'a vécu l'OM avec la finale de la Ligue Europa et qui maintenant est un peu plus en difficulté. J'ai peur qu'il justement arrive à atteindre cet objectif ou peut-être même à aller chercher une coupe, pourquoi pas, mais que derrière, il y ait beaucoup de départs et que ce soit très difficile pour Strasbourg, quoi.
Timothée Rouvière.
Oui, c'est ça qui est compliqué pour les clubs qui marchent bien, les clubs un petit peu surprises de ces saisons de Ligue 1 qui arrivent, alors pas forcément en Ligue des Champions, bon encore on a l'exemple d'Auxerre il y a très longtemps, mais qui arrivent en Ligue Europa et qui ont perdu leurs meilleurs joueurs et qui ramassent.
Ils ramassent partout, sur
tous les tableaux.
Ils ont mangé leur pain noir avec ces années dans le monde amateur, est-ce que c'est pas une récompense aussi? On vient de parler d'Auxerre, on a parlé de Toulouse, est-ce que c'est pas une récompense brute entre guillemets, c'est-à-dire se faire éliminé très vite en Ligue Europa l'année prochaine, mais c'est une récompense sur un public énorme à la Méno.
La récompense, elle est dans la qualité du jeu, dans le spectacle proposé, dans les belles victoires. Je pense pas que la Coupe d'Europe soit... Ou alors, ça se construit, quoi, un parcours en Coupe d'Europe, une présence en Coupe d'Europe, et je pense que c'est trop tôt.
Timothée Rouvière, pardon.
Oui, moi je pense que tout simplement la récompense c'est d'être en Ligue 1 et d'être dans ce top 10 de Ligue 1, de proposer du beau jeu, de garder les meilleurs joueurs. Le RC Strasbourg est un club historique de Ligue 1, ça on le sait, mais pour être européen, il va en falloir un peu plus quand même.
En enlevant le fait d'être européen, pourquoi pas, il y a quand même un titre à aller chercher cette année. Ils sont quand même deux matchs d'avoir une nouvelle ligne à leur palmarès, un palmarès qui est pauvre depuis 2005. Ils ont été champions de France de Ligue 2 en 2017. Ils ont été champions de France de National, donc la 3e division en 2016.
C'est pas un palmarès.
Sinon, leur dernier gros trophée, sans faire offense jamais à la Dominos Ligue 2, c'est quand même justement cette Coupe de la Ligue en 2005. Ce serait un beau pied de nez.
Oui, il y a la possibilité de gagner un titre, donc on crache pas dessus. Et il y a, comme on l'a dit, il n'y a plus Paris, il n'y a plus Marseille, il n'y a plus Lyon, donc il y a la place.
Mais c'est pas fait.
Pour terminer,
ils sont à domicile ou à l'extérieur?
Ils jouent contre Bordeaux à domicile.
Ouais. À domicile.
Ils reçoivent.
Et la finale se jouera à Lille, à Pierre-Mauroy. Et juste pour finir sur la Coupe de la Ligue, c'est quand même depuis que le Paris Saint-Germain est éliminé, les quatre clubs qui restent ne sont a priori, à part à l'heure actuelle, Strasbourg, quatre équipes qui ne devraient pas être entre guillemets européens à la fin de la saison via le championnat.
Ça peut être un moyen de décrocher un ticket aussi.
C'est incroyable quand même.
Ça peut être aussi un moyen de décrocher un ticket pour l'Europe en remportant la coupe aussi.
Bordeaux sont pas non plus complètement détachés de cette course au top 5, mais c'est vrai que effectivement, enfin si on voit Bordeaux ou Monaco l'année prochaine en Ligue Europa, on sera pas offusqué non plus. Quoi.
Non,
on est d'accord. Merci messieurs pour ce débat sur le Racing Club de Strasbourg. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec Valentin Porte, l'ailier de l'équipe de France de handball.
Je sais attendre, c'est dur, quand on attend dans la brume, que le salut n'est pas sûr, tout comme ce train je présume, mais comme un rien de chaleur, peut-être ma main dans la tienne, il n'en reste que pour quelques heures, mais qu'à cela ne tienne. Promis, on s'en sortira. Quelle élégance tu me rappelles,
qu'on peut être fauché et digne. Y en a qui semblent avoir leur tour, et nous on gèle jusqu'au verbe. Oui, nous on attend toujours, mais qu'à cela ne tienne. Promis, on s'en sort.
C'est que rien dans ce désert nous promet la verdure. Mais je suis de ceux qui ont la tête dure. Car j'ai appris que la patience est la plus belle des vertus, aussi la plus belle des tortures. Quand je vois que la chance court vers nous sur le dos d'une tortue. Même si les trèfles à quatre feuilles ont du mal à fleurir, moi j'ai bâillonné mes larmes avec mon plus beau sourire. Car j'y crois, moi, à ces menottes qu'on dessert, à ce beau soleil en plein hiver, à ces rêves qu'ont le cœur qui bat, à ce gang victorieux après ce long combat. Non, ne me lâche pas la main, car j'ai besoin de croire même une seule seconde que mon tour viendra. Ta présence et tes mots me servent d'oxygène. Yeah, jusqu'au bout de nos peines.
On s'en sort. Mais on s'en sortira, c'est sûr.
Sportez-vous bien. L'invité.
Notre invité est champion d'Europe et double champion du monde pour l'instant. Il est actuellement en Allemagne pour essayer de glaner justement un troisième titre, un troisième sacre mondial de handball. Valentin Porte est l'un des plus expérimentés, l'une des pièces maîtresses du groupe France de Didier Dinard. Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Après la victoire 31-22 hier contre l'Islande, tout simplement, comment vont les jambes aujourd'hui ?
Bien, bien. La tête va bien et quand la tête va bien, les jambes vont bien. Donc aujourd'hui, on a pu souffler un petit peu. Ça fait du bien parce que le rythme est compliqué depuis le début.
Il y a des matchs tous les jours quasiment. Vous avez joué samedi, vous avez joué hier. Le prochain match, c'est mercredi contre la Croatie. Justement, les Croates ont perdu contre le Brésil. Ça change tout dans ce groupe ?
Ça peut tout changer. On va suivre ce soir le match Croatie-Allemagne. Et il se trouve que si l'Allemagne bat la Croatie, ça nous qualifie de suite directement pour les demi-finales. Donc on va suivre ça de près. Et puis on verra ce qui se passe. Maintenant, on va quand même préparer le match de la Croatie le mieux possible pour se qualifier pour les demi-finales.
Lucas Serdic.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà envisagé justement ce qui se passera si vous êtes déjà qualifié, ou vous allez vous relâcher un peu contre la Croatie ou quand même tenter de jouer le match à fond ?
Mais justement, non, on ne va pas se relâcher parce que pour préparer le mieux les demi-finales, il faut jouer à fond ce genre de match contre une équipe forte comme la Croatie. Donc non, ça serait bête de se relâcher. On va prendre le match très au sérieux.
La compétition, justement, elle avance. Et comme vous venez de le dire, les équipes sont de très très haut niveau. Quelle équipe, justement, vous craignez ? Il y a les Danois à domicile, il y a la Norvège que vous avez battue en finale de la Coupe du Monde en 2017. Quelle équipe vous craignez le plus ?
Bah, beaucoup d'équipes sont en forme depuis le début. L'Allemagne chez elle est très costaud. Le Danemark a montré de très belles choses depuis le début de la compète. Donc, de toute façon, on arrive à un niveau où toutes les équipes sont dangereuses. Donc, on sait très bien que pour être champion du monde, il faut battre les meilleurs. Donc, voilà, faut faire attention à tout le monde.
Personnellement, vous avez joué hier un match très très solide. En première mi-temps, vous faites 5 sur 5 et vous portez un petit peu l'équipe. Comment vous vous sentez dans ce groupe France que vous êtes un habitué maintenant ?
Oui, bah écoutez, c'est une compète qui se déroule un peu comme d'habitude, où on a eu un peu de mal à commencer, c'était pas parfait, un peu brouillon même, et puis de match en match, on a progressé jusqu'à arriver à un très bon niveau depuis deux matchs, donc tant mieux, hein, on est en ordre de marche, on peut faire encore mieux, et j'espère qu'on fera mieux contre la Croatie pour se qualifier pour une demi-finale et être au top pour le dernier carré.
On a comme l'impression que rien ne peut arriver au bleu finalement, comme vous venez de le dire, il y a, on va dire, une gestion du premier tour, très costaud contre l'Espagne, contre l'Islande. Quel est le secret de cette réussite qu'a l'équipe de France de handball?
Bah, une grosse confiance en nous déjà, un collectif de grande qualité, de très haut niveau. C'est vrai qu'on est actuellement 16, voire même 18 avec les deux qui sont hors du groupe de joueurs de très haut niveau. Donc ça permet des rotations de qualité et d'être performant sur tout le long de la compétition.
Comme les All Blacks en rugby, il y a une transmission, c'est des générations et des générations. C'est un peu le cas avec l'équipe de France de handball. Ça vient d'où cette transmission?
Bah, dès le plus jeune âge, hein, dès les pôles, les sports études, où on nous inculque un petit peu le jeu à la française, et après bah, les centres de formation, les clubs pros qui continuent ça, et une fois qu'on arrive un peu dans le groupe France, là, on est de suite briefé par les plus vieux qui nous apprennent bien vraiment comment faire pour garder ce niveau.
Justement, vous êtes passé un peu de l'autre côté, vu que vous êtes maintenant dans les plus expérimentés du groupe France. Comment on fait pour faire garder, entre guillemets, la tête froide aux nouveaux arrivants? On rappelle, l'équipe de France a gagné 4 des 5 derniers mondiaux. Ils peuvent se dire, même si ça reste des compétiteurs, mais inconsciemment, ils peuvent se dire, bon, on arrive en équipe de France, titre mondial est quasiment, je mets entre parenthèses, on est d'accord, quasiment assuré. Comment on fait pour garder la tête froide, surtout avec les jeunes qui arrivent?
Parfois, c'est vrai qu'on mérite une petite piqûre de rappel. On l'a vu au premier tour. Hein.
Oui.
Ce sont souvent les adversaires qui nous rappellent que rien n'est jamais gagné parce que tout le monde progresse d'année en année. Des jeunes générations dans d'autres pays aussi sont très talentueuses. Donc, il se trouve que parfois, on reçoit une petite, pas correction, mais une piqûre de rappel contre une équipe et ça nous apprend un petit peu encore plus l'humilité et de se dire que rien n'est jamais acquis, même si on est l'équipe de France.
On parle de génération d'handballeurs français. Vous êtes un petit peu un cas particulier. Vous êtes entre les deux, entre les illustres anciens que sont Karabatic, Guigou, Abalo et les tout nouveaux qui arrivent. Comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes déjà dans les conseils que vous donnez aux plus jeunes ou est-ce que vous écoutez encore les anciens, les vieux sages?
Bah, il faut toujours écouter, on a toujours à apprendre n'importe quel âge, rien n'est jamais acquis. Maintenant, c'est vrai que 28 ans, quand je vois des petits jeunes qui arrivent de 20, 21 ans, ça me met un petit coup de vieux, même à moi. Donc je ne suis pas là non plus pour donner des conseils, je suis là pour faire respecter, on va dire, ce qui est, qu'on m'a inculqué il y a quelques années.
Pour guider un petit peu quand même.
Tout aille bien. Oui, voilà, mais de loin, quoi. On n'a pas besoin d'intervenir. Hein. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et puis c'est pour ça que l'équipe de France fonctionne très bien depuis des années.
Le rôle de Didier Dinard, le sélectionneur de l'équipe de France, quel rôle il vous donne dans ce groupe France, justement, dans cette équipe de France?
Bah, comme vous l'avez dit, je ne suis pas un jeune, je fais partie des plus vieux, des plus expérimentés. Donc, après, voilà, Dinard, ça a quand même été un joueur emblématique aussi. Donc, rien que par sa présence et ses discours, il nous inculque la culture de la gagne et de cette équipe. Donc, on a juste à l'écouter, puis derrière nous, à relayer ce discours. Et puis voilà, c'est ça notre métier. Les plus jeunes l'oublieraient, mais bon, c'est pas le cas.
Justement, cette culture de la gagne, vous êtes à l'heure qu'il est, on espère que dimanche prochain, ça va changer. Vous êtes pour l'instant double champion du monde, champion d'Europe. On connaît les sacrifices, les efforts énormes pour atteindre ce niveau, pour atteindre ces titres majeurs. Justement, cette rage de gagner, comment là, avec les années, comment on fait pour durer à ce niveau-là?
Bah, c'est une bonne question, mais vous savez... À ce niveau, comme vous l'avez dit, nous sommes tous compétiteurs, donc c'est pas parce qu'on gagne une fois qu'on va s'arrêter. On a toujours envie, toujours plus d'engranger les titres, d'avoir un beau palmarès. Moi, j'ai été élevé comme ça dans la culture de la gagne, donc je ne peux pas m'arrêter à un titre ou deux. Si je peux en gagner une dizaine, j'en gagne une dizaine, mais on est tous comme ça, donc, on se bat tous les jours pour aller chercher le titre.
Est-ce que personnellement vous sentez qu'on attend de plus en plus de vous? Parce que voilà, quand vous êtes arrivé en 2014, vous avez fait une compétition incroyable, mais vous étiez un petit peu le petit nouveau, la surprise. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes plus la surprise, vous êtes la confirmation depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous sentez cette différence-là ou vous êtes un petit peu, vous restez insouciant justement pour être performant?
Non, je, sûr qu'on attend de moi peut-être une certaine régularité parce que je commence à avoir un peu d'expérience. Donc j'essaie d'apporter cette régularité, de bien faire mon boulot quel qu'il soit. Après, je vois des jeunes qui arrivent avec énormément de talent, qui méritent leur place, qui jouent beaucoup. Donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient le meilleur possible. Donc moi, j'ai mon boulot, j'essaie de le faire au mieux. Et puis c'est bien que ça plaise ou non, j'essaie de faire le mieux possible.
Justement, parmi les jeunes qui sont là, on a Melvin Richardson qui impressionne depuis quelques matchs, le fils de la légende un petit peu du handball français, et puis d'autres comme Rémy Lee qui confirme. Qui vous impressionne le plus?
Ben, un peu tous, hein, franchement. Ça fait un peu malin de voir tous ces petits talents, parce que moi, à leur âge, j'en étais pas là. Melvin, je le côtoie au quotidien au club, donc je le vois évoluer, c'est assez impressionnant. Dika, Nedim, mais ils ont tous vraiment des énormes qualités. C'est tout bénéf pour l'équipe et pour le groupe.
Oui, et puis dans les cages, on a aussi Vincent Gérard qui a quand même parfaitement pris la succession de Thierry Omeyer. Est-ce que vous êtes aussi heureux, satisfait de voir un gardien comme ça, toujours aussi performant?
Qui a un niveau.
Voilà, c'est quelque chose sur lequel les Français se sont toujours appuyés, et là, ça continue.
Bah, de toute façon, vous savez, pour aller au bout, il faut souvent une équipe avec un grand gardien. Donc, il se trouve que nous, on en avait un, on l'a perdu, mais... Je sais, Vincent Gérard a l'étoffe, comment dire, peut-être pas, ça serait faire peut-être un jure à Thierry, mais à l'étoffe d'être un grand gardien, le futur très grand gardien de l'équipe de France. Il l'a prouvé, il le prouve encore, et je le côtoie aussi au quotidien à Montpellier, donc j'ai la chance de l'avoir aussi en club, donc tant mieux.
Il y a un autre joueur qui est une légende aussi du handball français, Nicolas Karabatic, qui est arrivé. Il n'était pas là pour le début du mondial, il était incertain, il est arrivé. On sent la différence avec un Nicolas Karabatic dans l'effectif sur le terrain?
Bah, oui, bien sûr que oui. Rien que par sa présence, il peut inquiéter toute une équipe adverse. Donc c'est toujours bien de l'avoir... D'avoir parmi nous sur le terrain. Maintenant, Nicolas est humain comme tout le monde. Il revient de blessure, d'une opération du pied. Donc, évidemment, il n'est pas encore à son meilleur niveau. Mais déjà, tout ce qu'il fait, il arrive à peser sur le jeu, sur les défenses adverses. Et c'est toujours bien de l'avoir et dans le groupe et sur le terrain avec nous.
C'était une surprise, en 30 secondes, c'était une surprise pour vous de le voir revenir? Ou vous y attendiez? Ou même vous avez été pris un peu de court?
Bah, vous savez... Non, pas vraiment, mais quand on connaît bien Nicolas Karabatic, rien ne nous surprend. Hein. C'est vrai qu'il fait partie de cette classe d'hommes un petit peu surhumains qui ont tendance à se réparer plus vite que la normale. Donc au final, sur le coup, quand on me l'a dit, j'ai été un peu surpris parce que ça faisait peu de temps qu'il avait été opéré. Mais après, quand on réfléchit, on dit ouais, bah, au final, ça m'étonne pas plus que ça parce que c'est Nicolas Karabatic.
Valentin Porte, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.
Et on vous dit un très très gros merde pour la suite de la compétition avec l'équipe de France. Merci à vous. Et on se retrouve lundi prochain sur Radio Présence. À bientôt.
Au commencement, un stylo. Puis vint le micro révélant la surprise derrière le rideau. N'ayez pas peur, chers auditeurs. N'ayez pas peur, chers auditeurs.